en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La journée scientifique Terre en mouvement, organisée en juin 2010 par le Bureau des Longitudes, portait sur les mouvements des différentes couches de la Terre. Canal Académie vous retransmet l'ensemble des communications en deux parties. Dans ce premier volet, Pascal Delecluze, directeur adjoint de la recherche à Météo France, revient sur le couplage atmosphère-océan, et puis Christian Bizouard, directeur de recherche à l'Observatoire de Paris, développe pour sa part l'effet des couches fluides externes de la Terre sur sa rotation. Tout de suite, Pascal Delecluze.
J'ai le plaisir de faire le premier exposé de cette séance spéciale et je vais donc vous parler des enveloppes fluides en regardant en particulier l'aspect du couplage entre l'océan et l'atmosphère. Alors pour procéder à ça, je vais d'abord vous parler en fait des aspects relativement locaux de ce couplage océan-atmosphère et je vous montrerai à quel point l'océan de surface est important pour la météorologie, à quel point la météorologie est importante pour l'océan. Puis ensuite, j'aborderai des dimensions plus globales. Je regarderai l'océan planétaire et la manière dont il interagit avec l'atmosphère pour en venir en fait à vous donner quelques exemples de variabilité climatique qui mettent en jeu le couplage entre les deux enveloppes. Et puis, je terminerai en abordant ce qui peut être considéré comme des questions pour ce siècle à venir. Donc, l'océan et l'atmosphère, deux fluides régis par des équations similaires, des équations du mouvement. Cependant, ils ont des caractéristiques physiques extrêmement contrastées. L'atmosphère, c'est la composante rapide du système. L'atmosphère réagit extrêmement vite. Elle s'équilibre sur des temps allant de quelques jours à quelques semaines. Elle a très peu de mémoire. Et la manière dont l'atmosphère est chauffée, c'est par le bas. Donc en fait, la structure de l'atmosphère est instable. Et on va voir que dans l'atmosphère, il y aura beaucoup de brassages verticaux qui vont être importants pour répartir l'énergie. En ce qui concerne l'océan, on a une composante qui cette fois-ci est très lente. Le temps de l'équilibration de l'océan, ça va de la saison à des temps très longs, de milliers d'années. Il a une très grande inertie thermique. Donc il va servir en fait de modérateur des variabilités climatiques. Et de plus, il est chauffé par le haut. Donc basiquement, la structure thermique de l'océan est stable. Donc on aura beaucoup moins de turbulences à l'intérieur de l'océan qu'on a dans l'atmosphère. Enfin, il est également opaque au rayonnement. Donc on a deux fluides qui vont constamment interagir par leur interface. Les propriétés de l'interface vont être très importantes pour déterminer toute une partie du spectre des mouvements dans les deux fluides. Et nous allons progressivement regarder comment s'exerce ce couplage. Alors tout d'abord, le paramètre d'excellence, le paramètre extrêmement important qui en fait contient à la fois la physique de l'océan, la physique de l'atmosphère, c'est la température de surface. La température de surface de l'océan, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très bien observé. Vous avez une carte qui vous représente la température de surface dans l'océan Atlantique. Vous avez en fait la composition de multiples capteurs qui y contribuent. Actuellement, les cartes de température de surface sont produites par la concaténation en fait de capteurs satellites provenant de multiples instruments. Et la combinaison de l'ensemble de ces capteurs nous permet de connaître l'évolution de la température de surface avec une très bonne résolution. Ceci dit, il y a encore des zones qui sont opaques, qui ne sont pas couvertes par les observations. C'est typiquement des zones de nuages, parce que beaucoup de capteurs ne pouvaient pas voir au travers des nuages. On arrive maintenant à avoir des résolutions très très fines sur la température de surface, ce qui nous permet d'en connaître l'évolution avec une grande confiance. Alors, j'ai voulu illustrer en fait l'importance de ce paramètre température de surface sur un exemple que je dirais météorologique. C'est typiquement, on sait que la température de surface permet d'améliorer les prévisions météorologiques telles qu'on les a en Europe. Mais là, je voulais vous parler d'un cas un petit peu plus loin de nous, c'est celui des cyclones. Une coupe qui est à travers le cyclone qui vous montre un petit peu ce qui va se passer dans l'océan sur le passage du cyclone. Lorsqu'on va avoir l'enroulement du cyclone avec l'œil du cyclone, on a à cet endroit-là une dépression de la surface océanique et on a au contraire une remontée de l'interface qu'on appelle thermocline qui sépare les eaux de surface chaude des eaux de surface froide. Donc on va avoir ici en fait la possibilité d'avoir des eaux froides qui vont rapidement refroidir ce qui va se passer au centre du cyclone. Donc on va avoir moins d'énergie disponible pour le cyclone et le cyclone va se propager en fait. Il va avoir tendance à aller chercher l'énergie océanique là où elle se trouve et il va aller là où la couche de mélange où en fait le mélange est beaucoup plus profond et lui permet de trouver des eaux plus chaudes. Donc on voit très bien, sur cet exemple-là de processus entre le cyclone et l'océan, que la manière dont le cyclone va agir sur l'océan va en quelque sorte préconditionner les déplacements de sa trajectoire. Ça va être un des éléments qui va conditionner les déplacements de sa trajectoire. Le travail de réaliser un couplage complet océan-atmosphère à échelle météorologique sur les cyclones est encore du domaine de la recherche, mais pour vous montrer ce que l'on peut gagner, ce que l'on espère pouvoir gagner avec ce type d'approche, j'ai représenté un exercice qui a été fait sur la trajectoire du cyclone Ivan dans l'océan Indien qui s'est produit pendant février 2008. En tenant compte d'une meilleure analyse des températures de surface, on arrive à améliorer la trajectoire du cyclone. Donc on espère, dans les années qui viennent, un modèle de couche de mélange océanique vraiment interactif avec l'atmosphère, pouvoir anticiper de manière significative les déplacements des cyclones. Alors, je vous ai donné un avant-goût de ce qui va se produire entre l'océan et l'atmosphère, et ce diagramme-là est fait pour vous montrer tout ce qui se produit à l'interface entre les deux fluides. Donc, on a ce que l'on appelle la couche de mélange océanique. Cette couche de mélange océanique reçoit le flux solaire, participe au bilan du flux radiatif avec l'atmosphère. Elle échange également avec l'atmosphère deux autres flux qui sont le flux de chaleur latente, le flux de chaleur sensible. Ces deux flux sont interactifs entre l'océan et l'atmosphère. Alors, j'ai juste donné les formules là, c'est pas pour regarder vraiment la formule, mais c'est simplement pour vous montrer que dans l'écriture de ces flux, ils dépendent l'un du gradient de température entre l'océan et l'atmosphère et l'autre du gradient de pression de vapeur entre l'océan et l'atmosphère. Donc ce sont deux termes qui vont être contrôlés par les deux fluides, des propriétés interactives entre les deux fluides. Ces deux flux vont également dépendre de U. U, c'est la vitesse du vent qui va s'exercer à 10 mètres au-dessus de l'océan. Donc on a au niveau thermique d'importants échanges entre les deux fluides. Ils vont également échanger par le vent, mécaniquement, et ils vont également échanger de l'eau, et ça par le phénomène d'évaporation, mais également de précipitation qui va apporter de l'eau sur l'océan. Donc on voit qu'on a plusieurs manières de coupler en fait l'océan et l'atmosphère. On les couple par la thermique, on les couple par la masse, par l'eau, et on les couple par la dynamique. Ce qui est important en ce qui concerne le couplage, c'est que ce qui va être disponible pour l'atmosphère dans sa dynamique, ce n'est pas seulement la température de surface, mais c'est également le réservoir océanique qui va être sous cette température de surface. Ça, c'est ce que l'on appelle la couche de mélange océanique. Et cette couche de mélange océanique, elle est décrite ici pour trois types de latitude. Ici, c'est la couche tropicale. La couche tropicale est relativement permanente pendant l'année. Au contraire, ici, vous avez la couche des moyennes latitudes. Alors, la couche des moyennes latitudes, elle a la propriété d'être très mince en été, quand il y a beaucoup de chaleur qui est absorbée par l'océan de surface, ce qui amincit la couche de mélange et donne donc un réservoir très mince en été pour gérer les interactions sur l'atmosphère. Et au contraire, pendant l'hiver, où l'océan va être plus chaud que l'atmosphère et va perdre de l'énergie vers l'atmosphère, elle va s'approfondir. Et elle va être avec une profondeur maximale au printemps. Et puis ça, c'est la couche de mélange telle qu'on l'a aux hautes latitudes. Et aux hautes latitudes, on a en fait de l'eau qui est homogène sur de très grandes profondeurs. Alors, pendant l'hiver et puis le printemps, janvier-mars, c'est là qu'on a les couches les plus profondes dans l'hémisphère nord. Et au contraire, quand on passe à la saison suivante, la couche s'approfondit pendant l'hémisphère sud. Donc on a une oscillation du réservoir, de la capacité de réservoir thermique entre l'océan et l'atmosphère en fonction de la saison. Ceci dit, le premier impact, c'est vraiment une mémoire thermique courte qui est liée au bilan de chaleur qui s'échange entre l'océan et l'atmosphère. Mais ce n'est pas le seul. Parce que nous sommes sur une Terre en dynamique et cette dynamique entraîne à la fois les vents et les courants. Sur cette Terre en rotation, les vents de surface dans l'Atlantique, les courants de surface dans l'océan Atlantique, on a une grande similarité en fait entre l'océan et l'atmosphère. Effectivement, les vents vont entraîner les courants de surface. Alors, les courants de surface vont être inclinés par rapport au vent. Ceci est lié à l'entraînement de la Terre, à l'effet de Coriolis. En fait, les courants de surface vont être à peu près à 45 degrés du lit du vent. Donc, on a une inclinaison qui est liée à la rotation terrestre. Et vous avez cette circulation qu'on appelle en fait la circulation de gyre. Alors, ici, anticyclonique pour les latitudes tempérées. Au contraire, on a une circulation cyclonique là. Et cette circulation cyclonique, anticyclonique, répond au schéma du vent. Donc, au premier ordre en surface, on voit ce couplage. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les vents entraînent l'océan de surface, mais l'océan de surface freine les vents. Et quand on calcule la dynamique de l'atmosphère, il faut tenir compte des interactions mécaniques entre l'océan et l'atmosphère pour tenir compte de ce freinage qui est exercé par la surface de l'océan sur les vents. Alors, ce qui n'est pas expliqué par cette théorie, qui est un petit peu plus compliquée, c'est le problème des courants de bord ouest. Et les courants de bord ouest sont en fait liés à la conservation de la rotation à la surface de la Terre, ce qui fait que dans un circuit de vent qui est un vent anticyclonique, comme on l'a aux moyennes latitudes de l'hémisphère nord, cette circulation anticyclonique génère en fait un flux de masse qui va depuis le nord vers le sud. C'est pour conservation du tourbillon planétaire. Et pour compenser ce flux de masse depuis le nord vers le sud, il faut un flux de masse vers le nord. Et ce flux de masse vers le nord, il s'exerce le long de la frontière ouest. Et la conservation du tourbillon planétaire impose en fait les courants de bord ouest qui assurent la constance du transport de masse à travers les latitudes. Donc l'origine du Gulf Stream, c'est le tourbillon potentiel dans l'hémisphère nord. Et il se trouve que cette théorie linéaire qui a été proposée par Sverdrup, on s'est en fait rendu compte qu'elle expliquait physiquement l'origine du Gulf Stream, mais elle n'en expliquait absolument pas l'amplitude, puisqu'il y a une intensification non linéaire extrêmement forte sur ces processus-là. Et les courants de bord ouest, qui ferment en fait les grandes circulations de bassins, sont des courants qui sont amenés à avoir une dynamique de tourbillon extrêmement importante et qui assurent un transport de masse énorme sur des échelles d'espace très très fines. Alors, pourquoi est-ce important tout ça? Je voulais vous montrer le bilan de flux qui s'échange entre l'océan et l'atmosphère et la température de surface océanique. Alors, ce que vous voyez sur une carte de bilan de flux entre l'océan et l'atmosphère, c'est que globalement, l'océan gagne de la chaleur dans les zones équatoriales et il en perd dans les zones subtropiques ainsi qu'aux moyennes latitudes. Et le maximum de perte, c'est aux moyennes latitudes. Et on voit ici que les maximums de perte de l'océan vers l'atmosphère, ce sont en fait les grands courants de bord ouest. On voit ici le Kuroshio, on voit le Gulf Stream. Donc les régions de courant de bord ouest sont des régions extrêmement efficaces pour en fait réchauffer l'atmosphère et transmettre la température de l'océan vers l'atmosphère. Et donc on a un couplage en fait entre dynamique et thermique qui est lié à la circulation océanique. Dans les régions tropicales, où vous avez ici un gain de chaleur très important, si vous regardez ensuite la température de surface, vous voyez que la température est chaude à l'équateur, là où on a un minimum relatif d'absorption, et au contraire, elle est faible à l'équateur, là où on a un maximum d'absorption. Donc en fait, on n'est pas avec un système équatorial qui est contrôlé par les flux de chaleur, puisqu'on a en fait une anticorrélation entre les flux de chaleur et la température de surface dans ces zones-là. C'est bien donc la dynamique qui contrôle la répartition de température équatoriale et non pas la thermique. Donc on voit qu'au haute latitude, la thermique est très importante, mais dès qu'on va être à l'équateur, ce sont les aspects dynamiques qui vont également marquer les couplages entre l'océan et l'atmosphère. Donc à partir de cette répartition en chaleur et en évaporation, on a en fait toute une distribution qui s'opère en ce qui concerne la température et la salinité, qui sont les deux paramètres physiques importants qui contrôlent la structure de l'océan. Donc en ce qui concerne la température, on a accumulation de température dans les tropiques, lié à cet apport de masse-là. Et au contraire, on a une perte aux hautes latitudes et on voit l'océan froid qui communique avec l'atmosphère aux hautes latitudes dans ces régions qui sont les régions bleues. Et il communique avec l'atmosphère par deux types de processus. Le processus de convection. Le processus de convection a lieu dans des régions extrêmement définies au niveau planétaire. Ce sont les régions où les eaux très froides de la circulation océanique viennent envahir le fond de l'océan. Et ça se produit en particulier en mer du Labrador, en mer de Norvège et mer Arctique, également en Antarctique. Ce sont des régions privilégiées de convection. Mais plus proche de nous, on a également de la convection en Méditerranée occidentale, dans le golfe du Lion, quand, au mois de février-mars, quand il se produit des coups de mistral extrêmement prononcés qui refroidissent la surface de la mer. À ce moment-là, l'atmosphère peut contribuer à fabriquer des eaux de surface extrêmement denses par évaporation, parce qu'en évaporant l'eau de mer, on concentre le sel, donc on fabrique une eau froide et dense qui peut couler à ce moment-là au fond de l'océan. L'autre processus, c'est celui des moyennes latitudes, où on peut en fait injecter, quand on est au mois de février-mars, lorsqu'on a un rotationnel de vent qui favorise un transport vers le bas, vers l'enfoncement de l'océan, on peut, par ce processus de ventilation, injecter deux eaux de surface à l'intérieur de l'océan. C'est ce qui se passe en fait aux moyennes latitudes, processus de ventilation. Donc on renouvelle l'océan par son contact avec l'atmosphère à différentes échelles de temps. Alors, un exemple de couplage océan-atmosphère bien connu, c'est ce qui va se passer dans les tropiques, c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño. El Niño, c'est un phénomène, une anomalie climatique qui affecte quasiment la moitié de la planète, qui est centrée sur l'océan Pacifique équatorial, mais qui affecte de loin les autres océans tropicaux ainsi que les continents adjacents. Donc vous avez ici représenté les caractéristiques de base d'un événement El Niño. Donc pour vous contraster ça, vous avez représenté une distribution de température pendant une année normale et puis en dessous une année El Niño. Donc pendant une année normale, les eaux chaudes sont accumulées dans la partie ouest de l'océan Pacifique. Et au contraire, on a un phénomène de remontée d'eau froide qui se produit le long de l'équateur dans la partie est. Cette remontée d'eau froide est liée à la présence de vents, des vents d'alizés, qui soufflent du nord-est vers l'ouest et du sud-est vers l'ouest, de part et d'autre de l'équateur dans l'océan. Sous la pulsion, sous la pression exercée par ces vents, on a remonté des eaux froides océaniques, ce qui fait qu'on a ici ces eaux froides qui apparaissent en bleu. Lorsqu'un Niño se produit, on a à ce moment-là, de manière quasiment simultanée, un effondrement des alizés qui peut aller jusqu'à des vents inverses qui se mettent à souffler sur l'océan Pacifique. Et on a les eaux chaudes de l'océan Pacifique qui envahissent l'équateur. Donc on a en fait une région qui est quasiment homotherme tout le long de l'équateur jusqu'à la côte de l'équateur. Alors ça, c'est ce qui se passe à la surface de l'océan. Si on regarde un petit peu ce qui se passe à la fois dans l'atmosphère et dans l'océan, vous avez ici représenté la circulation climatique moyenne, état normal du Pacifique, où on a les alizés qui forment la branche basse de la circulation de Walker. On a sur le Pacifique ouest, qui est très chaud, une ascendance atmosphérique avec l'air chaud et humide qui monte, formation de nuages. Et au fur et à mesure que les nuages se forment, le phénomène de dégagement de chaleur latente continue à réchauffer l'atmosphère. Et puis en altitude, la boucle de la cellule de Walker se ferme avec l'air qui revient vers l'est et qui subside en étant de plus en plus sec sur l'Amérique. Donc cette boucle, c'est la circulation de Walker. Et dans l'océan, ça s'accompagne avec ce phénomène de remontée des eaux froides profondes, ce qui fait que cette région qu'on appelle la thermocline remonte vers la surface. Donc la surface en fait est pentue avec une remontée des eaux et une accumulation des eaux chaudes de surface à l'ouest. Quand El Niño se produit, il y a rupture des vents d'alizés à la surface, les eaux chaudes envahissent tout et du coup, on a en fait la cellule de Walker du Pacifique qui disparaît. La convection se produit sur l'ensemble de l'océan Pacifique et en ce qui concerne l'océan, la thermocline est plate et la surface de la mer s'aplatit. Et ces phénomènes en fait évoluent en temps de manière quasiment simultanée. Alors pour vous décomposer plusieurs processus qui interviennent dans cette anomalie climatique, je vous ai présenté d'abord la partie initiation d'El Niño, le vent sur l'océan Pacifique. Alors, globalement, on a des alizés et le temps se déroule depuis le début de l'année 97-98. Et vous avez donc la partie est Pacifique, partie ouest. Et vous avez les événements que l'on appelle les coups de vent qui se produisent dans l'océan Pacifique et qui sont des coups de vent qui soufflent depuis l'ouest vers l'est, donc qui s'opposent en fait aux vents d'alizés. Chaque fois qu'un coup de vent se produit dans l'océan Pacifique, il déclenche un train d'onde dans l'océan. Et ce train d'onde de l'océan fait baisser la thermocline océanique. Et en baissant la thermocline océanique, ce qu'il produit, c'est en fait des eaux chaudes. Donc chaque fois qu'on a un coup de vent, on a propagation d'onde et on a à peu près un mois et demi plus tard, l'approfondissement de la thermocline qui se produit et donc les eaux qui se réchauffent dans l'est. Donc vous voyez la succession des coups de vent et vous avez les trains d'onde qui se succèdent. Et chaque fois qu'il passe, il continue à approfondir la thermocline et à réchauffer l'océan Pacifique. Donc on a un mécanisme amplificateur qui est un mécanisme d'onde. À partir de ce coup de vent, on va également propager un autre type d'onde qui sont ce qu'on appelle les ondes de Rossby, qui elles se propagent au contraire vers l'ouest. Et ces ondes de Rossby sont de signe opposé aux ondes de Kelvin. Et ces ondes de Rossby vont produire au contraire une onde qui va s'opposer à l'onde initiale, mais décalée dans le temps. C'est ce qu'on va appeler le décalage de l'oscillateur. Donc ça, c'est la partie onde. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la partie couplée. Et pour vous illustrer un des phénomènes couplés qui se produit pendant El Niño, et vous avez sur l'océan Pacifique la trace du développement des eaux chaudes. Les eaux chaudes sont initialement dans l'ouest et qu'elles se propagent pendant El Niño vers l'est. Et en termes de sel, vous avez également des eaux qui initialement sont dans la partie ouest de l'océan Pacifique, qui sont très dessalées, puisque c'est là qu'il pleut, et qui vont se propager pendant El Niño vers l'est. Alors, qu'est-ce qui contrôle ce phénomène de propagation, eh bien, c'est un couplage de surface entre l'océan et l'atmosphère. Dans l'état au démarrage, vous avez les alizés, dans la partie atmosphère, les alizés qui convergent, et vous avez un coup de vent d'ouest. Et vous avez ici la convergence entre le front d'alizés, les vents d'ouest, qui passent à peu près vers la ligne de changement de date dans l'océan Pacifique. Il se trouve que dans cette piscine d'eau chaude qu'on a dans l'océan Pacifique, là où il tombe beaucoup de précipitations, on va fabriquer une petite couche de surface extrêmement mince, d'une dizaine de mètres, qui va être en fait dessalée. Ce sont les précipitations qui vont se superposer et qui vont fabriquer cette couche de surface. Sous l'influence du jet qui va se produire dans le coup de vent, on va avoir advection de ces eaux dessalées vers l'ouest. Et cette advection vers l'est va en fait propager le coup de vent vers l'est. Donc on a en fait un phénomène qui est lié à l'advection des jets océaniques dans cette couche dessalée de surface qui va propager ce couplage océan-atmosphère vers l'est. Et ça, c'est le mécanisme qui contribue à déplacer la warm pool, la région d'eau chaude et salée de l'ouest, vers le centre et l'est du Pacifique. À l'initiation d'El Niño, on a la propagation d'ondes de type Kelvin, qui sont les ondes qui enfoncent la thermocline. Ce sont les ondes qu'on appelle les ondes de downwelling, qui provoquent le développement de chaleur. Alors, ils traversent très rapidement le Pacifique et vont accumuler de la chaleur le long de la frontière est. Et puis, le deuxième effet, qui est lié à ce deuxième mécanisme, qui est un couplage local océan-atmosphère qui se fait dans le front entre les coups de vent d'ouest et les alizés, va pousser le réservoir d'eau chaude et va donc amplifier progressivement et beaucoup plus lentement l'anomalie depuis la ligne de changement de date vers le centre de l'océan Pacifique. Donc là, on a une instabilité locale qui est due à un couplage local océan-atmosphère, alors que vous avez la grande dynamique d'onde qui amplifie à l'échelle du bassin, mais avec un mécanisme autre, le développement d'un El Niño. Donc vous voyez que même dans un El Niño, on a des processus à la fois d'ondes qui sont locaux à un fluide et d'instabilité locale qui permettent aux anomalies de s'amplifier et de se propager. Alors, El Niño, comme je disais, c'est quelque chose de complexe. Vous avez ici symbolisé, mais cette fois-ci vu en termes de niveau de la mer par l'altimétrie satellitaire depuis l'événement de 1997, donc le premier globe qui est présenté vous donne la situation au mois de mars, et puis ensuite la propagation d'El Niño en termes de niveau de la mer depuis les mois de mai, juin, octobre 1997, avec l'amplification et le phénomène complètement mûr pendant l'année 1997. Et en fait, cet El Niño de 1997 a été suivi à partir de début 1998 d'un deuxième événement qui est l'événement opposé, qui est la Niña, où au contraire, on résorbe progressivement cette anomalie d'eau chaude avec la propagation de signaux de signes inverses qui, cette fois-ci, font remonter la thermocline et établissent des conditions froides. Mais il n'y a pas qu'El Niño. Mais ce qui est important dans ce couplage, c'est qu'on a la base là, de la mémoire lente du climat. Et la mémoire lente du climat, ça conduit à pouvoir dire on peut aller sur le climat, à également jouer à la prévision. Donc, il y a des modèles couplés qui ont été développés. Là, je vous symbolise le modèle arpège, couplé avec le modèle Mercator de l'océan, qui sont initialisés par les conditions atmosphère et océan et qui permettent de déduire ce qui va se produire, cette fois-ci non pas à échéance météorologique, mais à échéance saisonnière. Donc vous avez présenté ici une prévision du El Niño qui s'est déroulé l'an dernier, en 2009. C'est une prévision d'ensemble de trois modèles, le modèle du Centre européen, le modèle Arpège-Mercator de Météo France et le modèle du Met Office. Et vous avez ici une prévision d'El Niño à trois mois qui est faite par l'ensemble de ces modèles. Et c'est un système qui maintenant tourne de manière opérationnelle dans les centres météo et qui permet de regarder ce qui va se produire en termes d'anomalies tropicales. Alors ça a des conséquences, bien sûr, sur des usages comme des gestions de bassins en Afrique qu'on essaie de piloter pour différents usages à partir de la prévision saisonnière. Mais je voudrais vous parler d'autre chose d'El Niño, en particulier vous dire que ce qu'on voit dans l'océan Pacifique, on voit également des anomalies de même genre dans l'océan Indien, de plus courte échelle de temps, mais qui existent également dans l'océan Indien. C'est ce qu'on appelle le dipôle zonal d'océan Indien, qui fait osciller entre l'est et l'ouest les tropiques de l'océan Indien. Et on observe également un phénomène de couplage, cette fois-ci à plus grande échelle de temps, dans l'océan Atlantique. C'est en fait l'anomalie décennale atlantique, qui se manifeste également par un dipôle chaud-froid de part et d'autre de l'équateur, mais cette fois-ci à plus grande échelle de temps. Donc on a d'autres exemples dans l'océan planétaire et dans la planète d'oscillations couplées de basse fréquence qui contrôlent en fait la variabilité climatique dans de nombreuses régions. Alors, chez nous, on est loin des zones tropicales, on parle davantage de l'oscillation nord-atlantique. L'oscillation nord-atlantique, c'est un phénomène qui a une signature océan-atmosphère, mais dont le couplage entre les deux fluides est encore une question ouverte de recherche. Ce que l'on voit sur l'océan et sur la signature, c'est que cette oscillation nord-atlantique, c'est en fait une fluctuation simultanée entre l'anticyclone des Açores et puis la dépression qui se produit au sud du Groenland. Avec une phase positive, dans la phase positive, on a une remontée du flux vers l'Europe du Nord et de fortes précipitations en Europe du Nord et au contraire sécheresse en bassin méditerranéen. Et dans la phase négative, on a au contraire une sécheresse au Nord et beaucoup plus de précipitations qui se produisent dans le bassin méditerranéen. Il se trouve que quand on regarde la série temporelle d'une oscillation nord-atlantique, c'est qu'il n'y a pas de fréquence privilégiée. Donc on a espéré à un moment donné essayer de contraindre la basse fréquence de l'oscillation nord-atlantique par la signature océanique, mais ça n'a pas encore été vraiment démontré et ça continue à être un objet de recherche important. À plus grande échelle de temps, on a des oscillations climatiques où on regarde également des effets couplés océan-atmosphère qui ont été observés en particulier dans les carottes du Groenland. Et je vous illustre ici des événements qui ont été observés dans la carotte de Norsgrib. Vous avez ici la température, un proxy pour la température qui a été mesurée dans cette carotte. Donc 0, c'est le temps présent. Puis ensuite, on remonte pendant le dernier maximum glaciaire. Cette série correspond au dernier maximum glaciaire. Et vous avez ici la différence de température entre l'actuel et le minimum glaciaire. Et pendant le minimum glaciaire, vous voyez qu'on avait des oscillations de température extrêmement fortes dans la glace, de plus de 10 degrés entre des périodes chaudes et la période dernier maximum glaciaire qui se produisait là. Il se trouve qu'on a une signature dans les glaces, mais si on regarde dans l'océan, on a une signature un petit peu différente, mais qui est également très marquée. Cette signature dans l'océan, on l'appelle les événements d'Heinrich. Et les événements d'Heinrich, en fait, c'est illustré par cette figure-là dans les carottes marines. Quand on prend des carottes marines dans l'Atlantique, parfois dans les carottes marines, on voit des strates qui sont marquées par des tests de foraminifères, des tests de plancton marin qui sont morts et qui se sont accumulés dans les sédiments. Et quelquefois, on voit au contraire que ces couches sont remplacées par des couches détritiques. Et on a une alternance entre ces deux couches. Et ça correspond en fait à une modification très importante du régime océanique qui se produit dans l'Atlantique Nord. En particulier, quand on est en période où on a des tests de plancton, on a une circulation qui pénètre bien dans l'Atlantique Nord et qui est océanique, libre de glace, très loin au nord. Et au contraire, quand on a une période détritique, c'est qu'on a des icebergs qui passent loin au sud et on a une période où les glaces sont extrêmement étendues. Alors, il se trouve que pour les climats glaciaires nous enseignent qu'en fait, on a une circulation dans l'Atlantique Nord qui est très fragile, la branche nord en Arctique. Vous avez donc le Gulf Stream qui ramène des eaux chaudes et puis on a la dérive nord-atlantique qui poursuit, qui est une branche issue du Gulf Stream, qui pénètre vers le nord. Elle pénètre par le courant de Norvège vers le haut des mers arctiques, et il y a une autre branche qui vient longer l'Islande et le Groenland et qui revient dans la mer du Labrador. Et en fait, quand on pénètre dans ces régions-là, cette eau qui est chaude et salée se refroidit très vite et s'alourdit. Et elle s'alourdit en particulier en présence de glace de mer, ce qui fait que dans ces mers-là se produit le processus de convection. Alors, le processus de convection, il se produit dans de multiples endroits. On a des cheminées dans de multiples régions de l'Atlantique Nord, mais il n'existe que lorsqu'il n'y a pas de glace. Il se produit quand la glace de mer est en train de se former. Mais si la glace de mer est trop loin, eh bien, dans ce cas-là, il ne peut plus se produire et il n'alimente plus à ce moment-là, de manière efficace, les sources d'eau profonde. Alors, l'autre phénomène qui peut bloquer cette formation d'eau profonde, c'est la fonte de la calotte. Si vous avez un excès d'eau douce qui provient de la calotte, qui peut provenir de la calotte du Groenland ou la calotte du Labrador, alors cet excès d'eau douce va faire comme une couverture de l'océan de surface. Il va bloquer les libres échanges entre l'océan et l'atmosphère et il va empêcher cette formation d'eau profonde. Alors, si on regarde aujourd'hui dans les modèles qui essaient de regarder ce qui va se produire sur le prochain siècle, quelle est l'intensité de cette circulation au nord ? Cette circulation au nord se mesure en fait en millions de mètres cubes par seconde. Les mesures donnent qu'on a à peu près une quinzaine de millions de mètres cubes qui montent vers le nord en eau sous forme d'eau chaude et salée, puis qui redescendent vers le sud sous forme d'eau froide et douce. Et vous avez ici l'ensemble des modèles. Donc, vous voyez, c'est un facteur que les modèles ont beaucoup de mal à observer, à représenter. Ce que vous voyez, c'est que la différence intermodale est importante et que tous les modèles ont tendance à faire baisser cette production de circulation liée à l'Atlantique Nord. Alors, que pourrait-il se passer ? Vous avez ici une simulation, une étude de sensibilité où on a regardé ce qui se produisait si on fondait de manière importante la calotte du Groenland. Donc, la différence en termes de température entre un modèle sans fonte de calotte et avec fonte de calotte. Lorsqu'on fait fondre les calottes, qu'est-ce qui se produit ? On refroidit jusqu'à 10 degrés cette partie nord-atlantique. Et ça, c'est lié au fait qu'en fait, on empêche la circulation thermohaline de se propager vers le nord. Donc, on permet la formation de glace de mer beaucoup plus bas. Et les interactions glace-océan-atmosphère, à ce moment-là, engendrent un refroidissement spectaculaire du climat dans les latitudes nord, à échéance de 4 ou 5 siècles, dans un doublement de CO2, si on fait fondre les calottes. Alors, ça, c'était bien sûr une simulation de sensibilité, mais qu'en est-il en termes de simulation globale ? Eh bien, même avec cette fonte de calottes qui produirait un refroidissement important dans l'hémisphère nord, quand on regarde l'anomalie de température qu'elle déclenche, on est toujours dans un réchauffement. On ne compense pas le signal de réchauffement lié au doublement de CO2 avec ce phénomène qui va jusqu'à 10 degrés localement, mais qui ne peut en aucun cas compenser le réchauffement qu'on obtient. Donc c'était pour vous illustrer le couplage océan-atmosphère qui peut se produire et inhiber ainsi, contrarier, je dirais, plutôt adoucir le réchauffement à haute latitude. Donc j'espère vous avoir convaincu que l'océan et l'atmosphère, ce qui est difficile, c'est qu'ils se conjuguent à différentes échelles de temps et d'espace, que la température de surface, qui est vraiment le paramètre clé entre les deux, dépend des deux fluides et est couplée à la fois thermiquement et dynamiquement aux deux fluides, qu'à l'échelle locale, on voit très bien que cette échelle locale, à la fois, on a besoin de mieux connaître les variations pour les prévisions météo et océano, mais que, comme on le voit par l'exemple d'El Niño, il y a des échelles de temps beaucoup plus longues qui sont contrôlées par ce climat, par ce couplage océan-atmosphère. Et en fait, cette grande échelle est également une illustration, comme je vous en montrais pour le climat cette fois-ci à l'échelle de 100 ans, c'est également contrôlé par ce couplage océan-atmosphère. Mais nous n'en sommes qu'au début de l'histoire.
Donc, nous venons d'avoir un aperçu sur les mouvements dans l'atmosphère et les océans. Pascal Delecluze a évoqué très rapidement l'influence de la rotation de la Terre sur l'atmosphère, en raison, vous le savez certainement, des forces de Coriolis. Alors, la question que vous pouvez vous poser à présent, est-ce que l'atmosphère et les autres couches fluides de la Terre, à savoir les océans et la couche hydrologique, c'est-à-dire correspondant aux eaux continentales sous toutes leurs formes, est-ce que ces couches fluides externes, je n'aborderai pas le problème du noyau fluide, est-ce que ces couches fluides externes ont un effet sur la rotation de la Terre ? Et la réponse est oui. Et je vais essayer de vous montrer que les irrégularités de la rotation de la Terre, certes très faibles, de l'ordre du 100 millionième sur la vitesse de rotation et de l'ordre de quelques mètres sur la position du pôle de rotation à la surface de la Terre, je vous ai montré comment ces irrégularités s'expliquent en grande partie par les redistributions de masse au sein des couches fluides de la Terre. L'approche la plus commune pour étudier les effets des couches fluides sur la rotation de la Terre, c'est l'application du théorème du moment cinétique. La conservation du moment cinétique au système incluant à la fois la Terre solide et ses couches fluides. Souvent, pour illustrer la chose, on prend l'exemple du patineur, le patineur sur glace. Hein, quand il écarte ses bras, sa vitesse de rotation diminue quand il tourne sur lui-même. Eh bien, les bras du patineur, c'est l'atmosphère ou les océans ou les eaux continentales. Lorsque le moment cinétique, lorsque l'atmosphère s'écarte de la Terre solide, la vitesse de rotation de la Terre diminue. Si vous le voulez bien, essayons de faire un ordre de grandeur. Le moment cinétique de la Terre, à savoir le moment d'inertie fois la vitesse de rotation moyenne de la Terre, c'est environ 6 × 10^33 kg/m²/s. À l'instar de Pascal, au XVIIe siècle, étant donné la pression atmosphérique, nous calculons que la masse de l'atmosphère représente en moyenne, 1/1000ème de la masse de la Terre. Cela veut dire aussi que le moment cinétique de l'atmosphère, si nous ne considérons pas la superrotation de l'atmosphère due au jet stream. Le moment cinétique de l'atmosphère, c'est aussi un millionième du moment cinétique de l'atmosphère. Or, vous avez des variations de pression atmosphérique à la surface de la Terre qui représentent environ 1% de la pression atmosphérique en surface, ce qui correspond à des variations de moment atmosphérique qui valent environ 100 millionième du moment cinétique de la Terre solide. Donc, par conservation, si vous supposez que toute variation du moment cinétique atmosphérique par conservation du moment cinétique est transmise à la Terre solide, vous en déduisez que vous avez des variations de 100 millionième aussi du moment cinétique terrestre, et comme le moment d'inertie de la Terre est à peu près constant, donc vous avez des variations de 100 millionième en sens opposé de la vitesse de rotation. Autrement dit, des variations de 100 millionième de la durée du jour. Faites l'ordre de grandeur, vous obtenez une milliseconde. Alors pour la direction, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait aussi une variation de la position de l'axe de rotation de la Terre. Alors, elle est beaucoup plus grande en raison de l'aplatissement de la Terre. Disons que l'effet est démultiplié dans un facteur 300 à peu près, ou 100. Alors, la deuxième approche que l'on peut considérer pour analyser ces phénomènes, c'est de s'intéresser directement aux forces que ces couches fluides exercent sur la Terre solide. Alors, ces forces sont de trois natures. La première, c'est la force la plus évidente, c'est la force de pression. Et pourquoi y a-t-il un moment de force de pression en moyenne? C'est tout simplement que la Terre n'est pas sphérique et donc que la force ne passe pas par le centre de la Terre. D'où un moment de force qui, si la pression n'est pas uniforme à la surface de la Terre, est non nul globalement. Le deuxième type de force qui vient compenser les forces de pression, c'est l'attraction gravitationnelle de l'atmosphère sur la Terre, qui compense pour environ 2/3 de l'effet de pression atmosphérique. Troisième type de force, qui est essentiellement axial, ce sont les forces de friction, qui induisent un moment de force axiale qui est de l'ordre de 10 puissance 19. Mais le moment de force équatoriale, donc responsable des basculements de l'axe de rotation de la Terre dans le plan équatorial, donc du mouvement du pôle, est de 2 ordres de grandeur en moyenne plus grand, en raison de l'aplatissement de la Terre. À titre de comparaison, le moment des forces de marée lunisolaire, responsable de la précession-nutation, du phénomène bien connu de précession-nutation, est 1 ordre de grandeur au-dessus. Donc c'est pratiquement la même chose. Donc pour vous dire que ces phénomènes des couches fluides ont un rôle particulièrement important sur la rotation de la Terre et ne peuvent être négligés dans son analyse. Alors, puisque c'est le mouvement, puisque c'est l'effet équatorial qui est le plus grand, c'est aussi la raison pour laquelle la première irrégularité, hormis la précession-nutation, qui est connue depuis l'Antiquité, mais due à l'action de la Lune et du Soleil sur le bourrelet équatorial, la première irrégularité géophysique qui a été découverte sur la rotation de la Terre, c'est le mouvement du pôle. Le mouvement du pôle de rotation à sa surface, pressenti par Euler comme un mouvement libre dès le XVIIIe siècle et découvert par Chandler, cet astronome américain, à l'orée du XXe siècle, depuis amplement mesuré. Alors c'est un phénomène qui atteint à la surface de la Terre, sur le plan tangent au pôle nord géographique, une amplitude de quelques mètres, à 14 mois d'intervalle. La composante principale étant celle du mouvement libre, en 14 mois, et la deuxième composante étant un terme annuel associé aux redistributions de masse des couches fluides. Deuxième irrégularité, mais découverte plus tard, environ 40 années plus tard, ce sont les variations de la durée du jour. On a d'abord décelé une variation décennale de l'ordre de quelques millisecondes, représentée depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Variations décennales qui sont dues au noyau fluide, que je n'aborderai pas dans le cadre de cet exposé, auxquelles se superposent des variations à plus court terme, essentiellement saisonnières, atteignant une amplitude de 1 milliseconde. Tiens, justement, l'ordre de grandeur que je vous ai indiqué au début de l'exposé. Les couches fluides externes ont également un effet sur la précession-nutation. C'est un effet qui est mineur, qui représente 1/10 millième de l'effet principal causé par la marée lunisolaire sur le bourrelet équatorial de la Terre. Je n'aborderai pas cet effet. Aujourd'hui, l'ensemble des irrégularités de la Terre sont mesurées avec une précision phénoménale. 1 mm sur la position du pôle de rotation par rapport à la croûte terrestre, 10 microsecondes sur la durée du jour. Ces mesures sont coordonnées par le Service international de la rotation de la Terre, dont l'une des antennes principales est à l'Observatoire de Paris. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je suis bien placé pour vous en parler. On a vu à partir des années 60-70, une révolution astrométrique, alors que ces irrégularités étaient mesurées exclusivement avec des observations optiques. Aujourd'hui, ce qui permet de déterminer l'orientation de la Terre, la rotation de la Terre dans l'espace, ce sont des mesures de temps. Différents types de mesures de temps. Le premier type étant celle issue de la radio-interférométrie à très longue base. Vous avez aussi le tir laser sur satellite ou sur la Lune et les techniques de positionnement global par satellite, GPS, GLONASS et puis le système européen aujourd'hui en développement, Galileo. Alors vous pourriez me dire, certes, nous avons des effets, les couches fluides influent sur la rotation de la Terre, mais il y a aussi d'autres effets. Comment vous prétendez séparer les effets des couches fluides des effets atmosphériques, océaniques ou hydrologiques? Alors ces effets, ce sont les effets de couplage noyaux mentaux et puis les effets de marée océanique essentiellement et de marée de terre solide causée par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Il y a d'autres effets, mais qui sont soit négligeables, comme les effets sismiques ou tectoniques, ou présentant une échelle de temps beaucoup plus grande, tels que le rebond post-glaciaire ou bien le freinage dû à la Lune, qui atteint environ 2 millisecondes tous les 150 ans sur la durée du jour. Donc effets beaucoup plus petits ou à des échelles de différentes qui n'interviennent pas, si vous voulez, au niveau des effets des couches fluides externes. Par ailleurs, les effets des marées sont des effets qui sont prévisibles et extrêmement bien modélisés, puisque très réguliers et dans la mesure où la force de gravitation lunaire solaire est très bien connue. Les effets de coupage noyaux mentaux se développent à partir de périodes de 6 ans. Lui est mal connu, mais n'intervient pas, donc, comme je vous l'ai dit, aux périodes des couches fluides externes. Quant à l'effet des couches fluides, on commence, depuis environ une vingtaine, trentaine d'années, en particulier pour l'atmosphère, on a une estimation satisfaisante à partir des modèles de circulation hydrométéorologique. Donc, le résultat des courses, c'est que l'effet des couches fluides externes est bien identifiable dans le mouvement du pôle et les variations de la durée du jour. Alors, il s'agit à présent de confronter les irrégularités mentionnées au moment cinétique de ces couches fluides. L'approche donc, qui est utilisée, c'est celle que j'ai exposée au tout début, à savoir la conservation du moment cinétique du système total, terre solide et couche fluide externe. Il s'agit de mettre en parallèle les observations du mouvement du pôle, le moment cinétique en quelque sorte de la rotation de la Terre telle qu'elle est observée, que j'appellerais excitation géodésique, et le moment cinétique des couches fluides que j'appellerais excitation fluide. Moment cinétique fluide déterminé à partir des modèles de circulation météorologique, océanographique et hydrologique. Alors ces moments cinétiques des couches fluides sont estimés grâce à la couverture croissante, ont été estimés grâce à la couverture croissante de la surface terrestre par les observations de pression, de vent, de température, du niveau de la mer. Et grâce aussi au développement fulgurant de l'informatique qu'on a connu ces dernières décades. Enfin aussi, on a vu des progrès dans l'élaboration de modèles de circulation atmosphérique océanique ou de stockage hydrologique. Donc, on dispose, grâce à tout cela, de séries de moments cinétiques dans le domaine du temps, au mieux avec une cadence de 6 heures, de moments cinétiques atmosphériques. Ça, c'est fait depuis une trentaine d'années. On a donc une production à l'heure actuelle, une production routinière de ces séries de moments cinétiques. On dispose également de séries de moments cinétiques océaniques, calculées un peu au coup par coup, non pas de manière routinière, depuis 1990. Et puis, depuis une dizaine d'années, on commence à calculer les séries de moments cinétiques avec une cadence journalière, séries de moments cinétiques associées au contenu hydrologique en eau douce de la Terre solide. Alors le tout est coordonné, c'est très important donc pour la compréhension. Et vous allez voir après, non seulement pour la compréhension, mais pour une raison très pratique, comme c'est très important pour la rotation de la Terre, la production de ces moments cinétiques est coordonnée par le Service international de la rotation de la Terre. Alors regardons ce qui se passe pour le mouvement du pôle. De 2008 à 2010, le moment cinétique de la Terre que j'appelle excitation observée ou excitation géodétique, en anglais géodésique, et puis l'excitation atmosphérique, c'est-à-dire le moment à une constante de proportionnalité près, le moment cinétique atmosphérique. Le tout est rapporté, vous voyez, à des quantités sans dimension qui sont exprimées dans une unité angulaire qui est la milliarcseconde. Alors vous voyez très bien un effet saisonnier, à la fois dans le moment cinétique atmosphérique, et puis dans le moment cinétique de la Terre tel qu'il est observé. Vous avez un accord qui n'est pas mauvais, une corrélation pour les deux années qui atteint 80%, et si j'ajoute à cela le moment cinétique était prévu, l'ajout des océans, eh bien l'accord serait monté, faites-moi confiance, à 92%. Tout ça pour vous montrer que océan et atmosphère jouent de manière concomitante sur le mouvement du pôle de rotation à la surface de la croûte terrestre. Alors regardons le bilan de l'excitation géophysique sur le mouvement du pôle de manière un peu plus détaillée. L'évolution, la précision des observations du pôle de rotation. En 1900, environ 30 cm, c'est une échelle logarithmique. 30 cm, 1 mètre de précision. Et à partir des années 70, précision décroissante grâce à la révolution astrométrique dont je vous ai parlé. Donc pour obtenir à l'heure actuelle, une précision de l'ordre de millimètres. Ce qui a permis de dévoiler toutes sortes de phénomènes encore inconnus il y a une trentaine d'années, en particulier ce qu'on appelle le mouvement rapide du pôle, c'est-à-dire les oscillations de la position du pôle de rotation à la surface de la Terre en deçà de 100 jours environ. Alors j'ai essayé de dresser un bilan de l'ensemble des composantes de la rotation de la Terre. On va commencer par la principale, à savoir le mouvement libre, découvert par Chandler dans les années 1890, d'une amplitude de 10 mètres. Donc c'est que le terme de Chandler, aujourd'hui, s'explique très bien par l'effet combiné des effets atmosphériques océaniques, une petite contribution hydrologique, mais qui n'est pas bien cernée. Ensuite, la deuxième composante, c'est le terme saisonnier ou annuel. Et là, il est bien démontré que, en plus de l'effet des océans et de l'atmosphère, les eaux continentales jouent un rôle particulier. Il explique environ 20% du total observé. Bon, dans le mouvement du pôle, il y a une dérive séculaire qui s'explique en grande partie par ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire, c'est-à-dire la remontée du sol scandinave suite à la fonte des glaciers. Bon, semble-t-il, il y a aussi, dans cette dérive séculaire, une composante qui est due à l'hydrologie, mais qui n'est pas très bien estimée à l'heure actuelle. Et puis, quant au mouvement rapide que j'évoquais, on a une explication pratiquement parfaite de ceci par la combinaison des effets atmosphériques et océaniques. Ces mouvements rapides, tels qu'ils sont apparus pendant l'hiver 2005-2006 à la surface de la Terre, formant des petites boucles de l'ordre de quelques centimètres qui auraient pu contenir un téléphone portable. Pourquoi ils sont apparus naturellement dans le mouvement du pôle, ces petits mouvements, à ce moment-là? C'est parce que, à cette période, le mouvement annuel et le mouvement libre de Chandler se sont compensés, étaient en interférence destructive et sont restés le mouvement rapide, résiduel, mais un mouvement de l'ordre de centimètres, à l'heure actuelle, très bien expliqué. J'en viens à présent à la composante AXA, de la rotation de la Terre, de la durée du jour, de 2008 à 2010. Vous notez très bien le terme saisonnier, donc pouvant être exprimé comme la somme de deux composantes harmoniques, une composante annuelle et une composante semi-annuelle. On s'explique très bien les variations saisonnières et en deçà de la durée du jour par les vents. Les variations de pression ou les variations océaniques ou hydrologiques ayant un rôle mineur sur les fluctuations de la durée du jour. Faisons alors un bilan un peu plus détaillé, composante par composante. Alors, première composante qui a été vue, c'est la composante à long terme, donc qui s'explique très bien par le couplage noyau-manteau. Ensuite, vient les composantes annuelles découvertes dans les années 1930 par Stoico, à l'Observatoire de Paris, qui s'explique, comme je viens de vous le montrer, presque intégralement par l'effet des vents atmosphériques. Et puis, dans les années 70, on a mis en évidence ce qu'on appelle les composantes biennales, de l'ordre de 2 ans ou un peu plus, qui s'interprètent très bien par l'effet superposé de l'atmosphère et des océans. Mais de façon générale, le rôle des océans et le rôle de l'hydrologie est mineur dans les variations de la durée du jour. Retenez que c'est avant tout les vents, et puis à plus long terme, l'effet du noyau fluide. Bon, il se peut, d'après certains, que les eaux continentales aient un certain rôle sur les composantes à long terme. Je pense en particulier aux travaux d'un météorologue russe qui s'appelle Sidorenkov. À partir de quand on a estimé les moments cinétiques, atmosphériques, océaniques et hydrologiques, à partir de quand on a fait des déterminations assez routinières? Pour l'atmosphère, c'est à partir des années 70. Pour les océans, c'est les années 90. Et pour les phénomènes hydrologiques, c'est à partir des années 2000. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut voir des phénomènes non plus planétaires, mais plus locaux, comme ceux de El Niño, que nous avons vus tout à l'heure? La réponse est oui, pour El Niño en tout cas. Donc toujours la même chose, la durée du jour, et puis le moment cinétique, atmosphérique, qui en 1982-83 présente un maximum correspondant au phénomène El Niño. La plupart du temps, il n'est pas possible de voir l'effet local d'un cyclone. Il faut des phénomènes d'une ampleur spatiale extrêmement grande. Mais j'en viens à la conclusion, savoir que les irrégularités de la rotation terrestre s'expliquent en grande partie par les variations de moments cinétiques des couches fluides externes. Les variations de la durée du jour étant essentiellement dues au vent pour des périodes inférieures à 6 ans, de l'ordre de la milliseconde. Pour le mouvement du pôle, c'est-à-dire des fluctuations de l'ordre de 10 mètres à la surface de la Terre, l'excitation principale vient de l'atmosphère, en second lieu des océans, et puis des eaux continentales. Tous ces effets sont bien modélisés, sauf pour ce qui concerne les eaux continentales à l'heure actuelle, où les phénomènes diurnes et décennaux se passant dans les couches fluides. Bon, vous pourriez me poser la question, à quoi ça sert tout ça? Certes, on comprend, c'est la science fondamentale, ça nous sert à comprendre comment la Terre tourne mal, mais c'est un jeu un peu gratuit, un peu vain. Pour défendre ma cause, je dirais qu'il y a une application très pratique qui est la détermination en temps réel des irrégularités de la rotation de la Terre, en particulier de la durée du jour ou de ce qu'on appelle le temps universel de la rotation de la Terre, le temps UT1, qui est essentiel pour le positionnement par satellite. Alors l'application, c'est de prévoir en temps réel l'état de l'atmosphère et à partir de ces prévisions, donc d'en induire le moment cinétique atmosphérique, et comme c'est le phénomène principal qui modifie la longueur du jour, d'en déduire l'angle de rotation de la Terre à l'instant où on veut faire le positionnement. Pourquoi ça ? Parce qu'on ne fait pas des mesures en temps réel de la rotation de la Terre. Les déterminations de la rotation de la Terre se font après coup, après une analyse assez lourde, disons 12 heures après. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Merci pour votre attention.
C'était Christian Bizouard, directeur de recherche à l'Observatoire de Paris. Il revenait sur l'effet des couches fluides externes de la Terre sur sa rotation. Le précédait Pascal Delecluze, directeur adjoint de la recherche à Météo France. Elle abordait au cours de son intervention le couplage atmosphère-océan. Poursuivez l'écoute de cette journée scientifique du Bureau des Longitudes en écoutant le deuxième volet sur notre site canalacademy.com. Vous y retrouverez les interventions de Marianne Greff et Gauthier Hulot, tous deux paléomagnéticiens. Et puis, pour connaître le programme des conférences du Bureau des Longitudes, toujours ouvertes au public, connectez-vous au www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.